Bonjour et bienvenue à cet autre épisode de Django et compagnie. Aujourd'hui, on a de la grande visite. On reçoit un des principaux instigateurs du jazz manouche à Montréal, le virtuose de la guitare manouche jazz, Denis Chang. C'est certainement le guitariste jazz manouche québécois le plus connu au monde. Il a côtoyé ou joué avec les plus grands du style, dont Biréli Lagrène, Stéphane Vrébel, Fapi Lafertin et bien d'autres. Il habite désormais le Japon et nous l'avons rencontré lors de son passage à Montréal au mois de juillet. On lui parle de suite, mais d'abord on l'écoute avec le quintet Duved and the Transatlantic Five.
Mississippi mine. What a dance they all do. Ooh, I'm telling you, they don't need a band. They can chime by clapping their hands, as happy as a cow chewing on a cud when the people beat the feet on the Mississippi mud.
Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, c'est pas Denis Chang qui jouait de la guitare là-dessus, mais c'est David Donievski. Denis Chang était les coups d'archet à la contrebasse, c'est lui. Alors Denis Chang, parlez-nous donc un peu là, justement de cette pièce.
De cette pièce, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Duved qui a choisi ce morceau. On a enregistré ce disque juste avant la pandémie, fin octobre 2019. Alors le groupe s'appelle Duved and His Transatlantic Five, qui réunit 5 musiciens, dont Duved Donayevski, israélien qui habite à Paris. Il y avait qui d'autre? Daniel Garlitsky, violoniste d'origine russe, mais qui habite à Paris aussi. Renaud Krolls, au violon et au piano. Ben là, dans ce morceau, il a joué du violon.
Ouais.
Lui, il est de Bruxelles ou aux alentours.
Ouais.
Ensuite, il y avait moi-même, à la contrebasse, et Zach Martel de New Liskert, Ontario, à la guitare rythmique.
Wow, quand même.
On a enregistré ça à Montréal.
En 2019, juste avant la pandémie.
Exactement.
La contrebasse, ça vous arrive, vous jouez de la contrebasse, parce qu'on vous connaît pour la guitare, mais la contrebasse, bien évidemment, c'est un peu apparenté, mais là, pourquoi? C'est parce que c'est un projet qui vous tenait à cœur de faire de la contrebasse sur un disque?
Je suis tombé amoureux de la contrebasse à travers la musique tzigane hongroise.
OK.
Ça m'a beaucoup plu. Alors, j'ai quand même commencé très tard dans la vie. Cet instrument, je pense, peut-être en 2016 ou 2017, je ne m'en rappelle plus. Et quand on joue la musique jazz des années 30, des années 20, il y a quand même une façon assez particulière de jouer de la contrebasse qu'on n'apprend pas vraiment à l'école, que la plupart des contrebassistes n'apprennent pas parce que ce n'est pas enseigné dans les écoles. Et moi, je l'ai appris en vraiment écoutant cette musique. Et Douved a voulu que je joue de la contrebasse dessus parce que je sais comment jouer dans ce style-là.
Parlant justement de style, oui. Votre histoire avec le jazz manouche, vous êtes Montréalais, oui. Vous avez étudié, j'imagine, à McGill?
C'est-à-dire que à McGill, j'ai étudié la musique classique, voilà. La théorie. J'ai un baccalauréat en théorie de la musique.
Oui, mais je veux dire, votre découverte du jazz manouche, c'est là où je voulais en venir.
C'est vraiment à part, oui.
Bon, c'est ça. C'est là où je voulais en venir. Comment ça s'est passé? À l'écouter, à rencontrer des gens, comment ça s'est passé?
Alors oui, ça a commencé quand j'avais 18-19 ans, je crois. C'était un son que j'avais toujours dans ma tête, ce son de... Ben, pas de guide, mais ce style-là. Mais je ne savais pas comment ça s'appelait.
OK.
Et je l'ai décrit à un ami guitariste. Ce son-là, cette guitare qui fait comme ça, tchum-tchak, tchum-tchak. Django Reinhardt. Il faut que tu écoutes Django Reinhardt. Il m'a dit d'aller écouter Raphaël Faïs, un guitariste français, manouche, ouais. Et Stokely Rosenberg. C'était les deux noms qu'il m'avait donnés, à part Django. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, waouh, c'est ça que je voudrais faire.
2-4-2-4.
Exact.
Puis là, vous avez écouté, vous avez découvert, et là, quoi? Vous avez étudié la théorie musicale en classique. On est à des années-lumière, mais quoique, c'est assez complexe quand même, le jazz manouche. Mais, et là, vous avez fait quoi? Vous avez commencé à en jouer par vous-même? Vous avez rencontré des gens?
En fait, j'ai voulu prendre des cours. Et à cette époque-là, il y avait un gars qui avait un site qui s'appelait Django Montréal. Okay. Un gars qui s'appelle François Rousseau, okay. Qui est toujours un très bon copain. Je lui ai écrit. Je lui ai demandé s'il pouvait me donner des cours, mais il m'a dit non, je ne suis pas musicien professionnel, je ne vais pas pouvoir te donner des cours, mais si tu veux, je joue tous les jeux dimanche, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est un café à l'époque qui était juste en face de la banquise.
Puis là, on est à quelle époque là?
2000.
2000, OK.
Année 2000-2001, un truc comme ça.
OK.
Il y a très longtemps. moi, j'allais l'écouter tous les dimanches après-midi, et je lui posais des questions parce que je ne connaissais rien. Je ne connaissais pas les standards, donc il commençait à jouer un peu avec ses amis musiciens aussi. Il y avait Martin Tremblay à l'époque, il y avait aussi Christine Tassin et un ou deux autres qui malheureusement ne jouent plus vraiment, je crois. Et voilà, j'y allais tous les dimanches.
Ça, c'est la genèse du jazz manouche à Montréal, vraiment.
Et on se parlait souvent aussi, moi et François, après ce n'était pas des concerts, mais des petits... Des après-midi, disons.
Mais là, il n'y a pas YouTube là, à l'époque.
Non.
Où c'est naissant, même pas.
Exactement.
Ça n'existe même pas. Alors, les ressources, on les trouve où? Parce qu'il n'y en a
nulle
pas ici. Il faut aller en France ou en
J'aurais
Europe.
J'aurais bien voulu prendre des cours, mais il n'y en avait pas. Alors, si tu veux, si vous voulez. j'avais quand même une formation en musique. J'ai appris la théorie. Je connaissais mes gammes, mes arpèges. Mais quand j'écoutais cette musique... Et que moi, j'essayais de jouer cette musique, j'entendais déjà une différence. Et je ne sais pas ce que c'était la différence.
Alors, différence par rapport à quoi?
Ben, non, juste le son, l'interprétation, tout, le vocabulaire,
ouais, oui.
La façon d'interpréter la musique. Alors, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est de reproduire ce que j'entendais dans les disques. J'ai appris à l'oreille.
Donc, à écouter pièce après pièce,
ouais,
transcrire, comme on dit, là.
Oui, exactement. On a passé des heures à faire ça. Et ensuite, j'ai appris par la suite qu'on appelait... Mais à l'époque, on ne disait pas jazz manouche. On ne disait pas... Il n'y avait pas de gypsy jazz manouche. On disait dans le style de Django, le hot jazz, je sais pas, musique des années 30. Je pense que c'est à cause de YouTube maintenant qu'on dit jazz manouche et gypsy jazz.
Okay.
C'est vraiment, ça a été...
On l'a cristallisé.
Exactement.
Là. Puis même en France, je pense que c'est très...
Oui,
c'est très... et les rencontres, et à partir de là,
voilà.
Vous avez rencontré des gens. Il y avait les gens à Montréal, mais vous avez rencontré des gens à l'extérieur aussi.
Alors, ça a commencé encore avec mon ami François Rousseau, il y avait un guitariste français qui était de passage à Montréal. Il s'appelle Stéphane Rambel. Oui, mais... Stéphane, il faisait, à l'époque, il étudiait aux États-Unis.
Oui, oui.
Donc, il a fait une petite tournée ici.
Il habite New York, non, maintenant.
Oui, exactement.
Ouais.
Il fait de la musique pour Woody Allen, des trucs, il a pas mal de succès. Alors, lui, c'était, bon, on va dire entre guillemets, le premier vrai guitariste dans le style que j'ai rencontré. Et il m'a beaucoup encouragé. Et après, il y avait un autre guitariste, là, vraiment un guitariste manouche, d'origine manouche. Il s'appelle Ritari, qui malheureusement ne joue plus et est devenu danseur professionnel.
OK, OK.
Et lui...
C'est un vrai manouche,
oui,
un vrai...
Voilà.
Ouais, OK.
Lui, je l'ai rencontré avec son cousin Hervé Gagonetti. Et c'était mes premiers mentors.
Ah ben, vous avez baigné directement là,
oui,
dans
exactement.
La crème de la crème.
Et après, il y a eu d'autres rencontres, Dorado Schmidt, etc.
Birelli aussi, vous avez rencontré.
Oui.
Ouais, ouais. Martin Tremblay nous racontait une anecdote, c'est grâce à vous, s'il y a une de ses guitares qui s'est retrouvée chez Birelli.
Ah oui, oui, oui.
Mais quand même, c'est pas rien, là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter une deuxième pièce, puis on va vous revenir pour continuer la discussion.
Oui.
Adrador Biblou, sur le même album, toujours Duved et les Transatlantiques Five.
Alors, M. Duved, qu'est-ce qu'on joue?
Adrador Biblou.
Allons-y, tant que c'est chaud.
Adrador Biblou, j'aimerais mieux être bleu. Alors, Denis Chang, vous êtes connu dans les cercles de jazz manouche à peu près sur au moins 3 continents, peut-être plus. Il y en a peut-être d'autres continents qu'on ne connaît pas encore. Hein? Vous êtes connu au Québec, en France, évidemment, en Europe, parce qu'on déborde, on va en Belgique, on va aux Pays-Bas, j'imagine à d'autres pays. En Asie également, comme aux États-Unis aussi, vous êtes connu aux États-Unis.
Je dirais que si on s'intéresse vraiment à la guitare manouche, il y a de fortes chances qu'on me connaît. Ouais.
Ouais, puis même, je lisais de vos articles là, sur Django, le site américain à San Francisco, le Django.
Ah, Django Books.
Oui, voilà, je lisais vos articles là-dessus. Là.
Oui, oui, il m'avait demandé d'écrire des trucs pour lui. C'est
ben
vrai,
ben voilà,
c'est vrai.
Ça veut dire que vous êtes une vedette.
Je crois pas.
La question que j'allais vous amener.
Oui.
L'état du jazz manouche aujourd'hui sur la planète, comment vous le qualifieriez? Parce que vous touchez, vous êtes vraiment universel. Là.
Moi, je dirais que après la mort de Django, les guitaristes en France, ils n'ont pas joué la musique de Django des années 30. Ça, c'était plutôt vers dans les communautés vraiment, vraiment gitanes qu'ils ont continué cette tradition. Donc, c'était un peu perdu. Les guitaristes des années 50-60 en France faisaient du bebop, du jazz contemporain de l'époque.
Ouais, ouais.
Et je pense que c'est plutôt vers les années 70, grâce à certains musiciens, dont Raphaël Faïs, Dorado Schmidt, qui a d'autres. Dorado Schmidt, Raphaël Faïs, Boulou, Elios Ferré, Fapi Lafertin, voilà. Ils ont commencé à réenregistrer dans le style des années 30-40 de Django. Et je pense que c'est un peu grâce à eux que maintenant c'est. Bon, je sais pas si c'est redevenu à la mode, mais c'est grâce à eux que certains guitaristes ont eu l'inspiration d'apprendre cette musique.
Mais aujourd'hui, est-ce que vous diriez que c'est en expansion, que ça se diversifie? Comment vous le décririez?
Et c'est juste ce que j'allais dire. Alors, grâce à eux, dans la communauté manouche, il y a plusieurs qui se sont dit « Ah, on pourrait peut-être faire carrière en musique en faisant cette musique et non pas juste dans nos soirées privées. » Alors, il y a d'autres gens qui se sont mis à jouer cette musique. Et ensuite, je pense qu'il y a eu un reportage vers la fin des années 80 qui s'appelle Django Legacy.
OK.
Ça, je pense que ça a été vu pas mal partout aux États... Bah, je ne dirais pas partout dans le monde, mais aux États-Unis, au Canada, en Europe. Et je pense que c'est grâce à ce reportage que d'autres musiciens se sont dit « Ah, on pourrait peut-être faire un peu cette musique. » Ensuite, il y a eu YouTube. Et grâce à YouTube, maintenant, partout dans le monde, des gens s'intéressent... Bon, pas tout le monde, mais certains s'intéressent à cette musique. Partout dans le monde, vraiment. En Indonésie, en Afrique du Sud, en Australie, ben, Brésil, l'Argentine.
Il va même y avoir... Vous êtes au Japon, puis il va même y avoir un festival à Taïwan.
Exactement, voilà.
Donc, c'est un bel exemple quand même.
Oui, oui.
Mais la musique en tant que telle, je veux dire, on est parti de Django, vous nous avez expliqué, bon, ça a été un peu laissé pour compte, puis après ça, c'est revenu, mais est-ce que cette musique se diversifie? Est-ce qu'elle s'élargit? Est-ce qu'elle s'enrichit? Est-ce qu'elle se mélange à d'autres musiques ou à d'autres styles? Pour bon, s'enrichir,
oui,
pour adopter, pour...
C'est-à-dire que ça, chacun fait ce qu'il veut avec la musique. Donc, dans ce sens-là, oui. Oui, oui.
Non, mais je veux dire, il y a des écoles de puristes et puis il y a d'autres saveurs.
Il y a ça dans tous les styles de musique. Il y a des puristes et des gens qui vont essayer de faire autre chose. Je pense qu'il faut un peu des deux.
Oui, oui. Mais votre lecture des choses en ce moment-ci, là. Hein?
Oui, ouais, en ce moment-ci. Ben, c'est-à-dire que, si tu veux, on appelle cette musique jazz manouche. Donc, il y a le mot manouche, c'est-à-dire les gitans de l'Europe de l'Ouest. Sauf que partout dans le monde, il y a plein de gens qui jouent cette musique sans rien connaître de l'histoire de ce peuple-là. Donc, c'est vrai que ça va changer un peu.
Oui, hein?
Veux pas. Et je dis pas que c'est mauvais, mais c'est juste comme ça.
Ça va s'enrichir, dans le fond, comme...
Ça va changer. Ouais.
Raphaël Faïs, ouais. il est espagnol d'origine.
Non, français gitan.
Oui, mais il est français, mais il est français du sud là, du Pays Basque, si je me rappelle bien.
Ça, je ne sais
pas. Il me semble qu'il y a des... En tout cas, je peux me tromper, mais...
Il est manouche, lui.
Oui. Il est manouche directement.
Oui.
Un peu comme l'était, comment s'appelait-il, le groupe des années 80 qu'on a tellement connu,
Gypsy Kings.
Voilà, voilà. Un peu, c'est un peu dans la même saveur, mais ce que je veux dire, il apporte quand même une couleur un petit peu différente, non?
Raphaël, ben, j'ai travaillé avec lui il y a quelques semaines, en fait. Raphaël Faïs, je pense qu'il est manouche.
Manouche pur et simple.
Plus simple. Lui, il s'est intéressé à la musique gitane de l'Espagne plus tard dans sa vie.
Okay.
C'est vraiment plus tard dans sa vie. Au début, il faisait que la musique de Django.
OK. Ouais. Mais ça apporte une autre couleur.
Oui, bien sûr.
Ben voilà. C'était là où je voulais en venir, surtout. Puis quand on joue, mettons, on arrive, comme ici au Québec, là, on sent qu'il y a comme une recrudescence. Est-ce qu'il y a une couleur particulière ou est-ce que c'est un peu... Est-ce qu'on peut dire ça ou pas?
Oui, oui. Bien sûr. Je pense qu'on peut dire ça. Ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de musiciens qui sont arrivés depuis la pandémie, dont Martin Joanny, mon collègue avec qui je vais jouer ce soir, un gars de Gand, en Belgique,
oui.
qui s'appelle Mo.
Oui, oui.
Très bon guitariste, c'est un gars qui s'appelle Hugo. J'ignore son nom de famille.
Hugo Mancia.
Ben voilà. Donc, il y a pas mal de bons musiciens maintenant. À l'époque, il n'y avait personne. Quand j'avais commencé...
Non, c'est ça, vous étiez très peu. Mais je veux dire, la couleur, est-ce que...
Ouais,
si, si on écoute, là, si je me retrouve à Paris dans un parc à écouter des gens qui vont faire un jam manouche, puis si je me retrouve à Montréal, est-ce qu'il y a une couleur différente? De l'influence locale, de l'influence du territoire, je ne sais pas. C'était ça, c'était plus ça
ma question. Je dirais un peu oui. Sauf que ce qui est un peu bizarre, c'est que le nom que j'ai cité tout à l'heure, ils venaient tous de l'Europe.
Ben voilà, voilà.
Et il y a des gens qui ont appris cette musique au Québec qui sont partis en Europe. Ils ne sont plus au Québec.
Oui, oui.
Alors?
Dont Damien Levasseur.
Voilà, voilà.
Voilà, voilà. Donc, donc finalement, c'est une osmose. Hein, tout
exactement,
ça,
exactement.
Tout se mélange.
Voilà.
Puis en Asie?
En Asie, à part le Japon, non, ça n'existe quasiment pas. En Corée, un peu. À Taïwan, quasiment pas. En Chine, il y a genre 2-3 groupes. Ah, ben, un peu partout, il y a des petits groupes. Mais... à part le Japon, non, c'est très peu de musiciens.
Est-ce qu'au Japon, on entend des accents particuliers dans la musique jazz manouche japonaise, vu que ces gens-là ont grandi avec un horizon culturel différent?
Oui, je dirais oui. Je ne saurais pas vraiment vous le décrire non plus.
Non, ben c'est ça. C'est comme au Québec, des fois, on peut entendre des pointes de traditionnel, fatalement.
Oui.
C'est environnant, ou du blues. Ou
c'est comme je disais, parce que c'est... ils ont pas, ils grandissent, ils apprennent cette musique sans vraiment connaître l'histoire, le contexte dans lequel cette musique a évolué à l'époque. Donc forcément, ça va changer quelque chose dans la couleur.
Ouais, ouais, ouais. Mais c'est comme apprendre Jean-Sébastien Bach aujourd'hui par rapport à...
Voilà, exactement. C'est, oui, oui, oui.
C'est,
oui.
C'est très, 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 très différent. C'est vraiment intéressant. Puis on espère que ça va continuer à s'enrichir, puis à s'élargir, puis à se bonifier, comme on dirait.
Les Django terroristes.
Les Django terroristes. Sur ça, on va passer à une autre pièce de musique qui s'appelle Place de Brouquières.
Oui, c'est un endroit à Bruxelles.
Oui.
Et c'est une composition de Django Reinhardt.
Ben voilà. Le problème lorsqu'on discute avec quelqu'un d'intéressant, c'est qu'on manque toujours de temps. C'est notre cas. Alors, on va conclure avec... j'aimerais ça vous parler. Vous avez une école de musique en ligne, puis vous nous parliez un peu de vos projets là, à venir.
Oui, on vend des vidéos pédagogiques préenregistrées avec des musiciens, pas que du jazz manouche, mais un peu de tout. Plein de musiciens connus, dont Pat Martino, Biri Legrain, Stokely Rosenberg, etc. Bon, je fais ça depuis 2011. Ça fait 12 ans.
Quand même?
Oui.
Et ça, c'est international.
Tout international.
Le monde, voilà, oui. Sur YouTube. Oui. Puis le gros de vos élèves, ils sont où?
Je donne pas de cours.
Vous donnez pas de cours, mais je dis les gens qui...
Ça, je sais pas. Partout dans le monde.
Partout dans le monde. Ah. Puis des projets? D'autres projets?
D'autres projets, je sais pas, je vis ma vie. cette année, en 2023, on est en 2023, oui.
Oui, mais 2024 s'en vient.
Oui, c'est vrai. En octobre, je fais quelques festivals en Asie. Ensuite, en novembre, je fais une petite tournée en Australie.
Bon.
Jamais été, donc ça va être intéressant.
Down Under.
Exactement, les kangourous.
Puis vous connaissez des guitaristes là-bas ou non?
Oui, un peu.
Bon, mais quand même. Bon, bien écoutez, le meilleur des succès. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On apprécie réellement votre temps. Merci.
Merci, merci.
Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Notre invité, Denis Chang, à la régie Maurice Bolduc, co-réalisation et conseil Jacques Bernard, réalisation, animation et thème d'ouverture Marc Levasseur. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre épisode de Django et compagnie. Merci, soyez des nôtres. Bye bye. Yeah.